Après ce cadrage général, j'ai envie de profiter de la présence de Monsieur François Bello, le ministre fédéral de la mobilité, pour vous demander, Monsieur le ministre, quel est votre constat sur la mobilité dans ce secteur et que comptez-vous mettre en place pour essayer d'améliorer le quotidien de la population ?
Bonjour à tous et félicitations pour cette initiative qui est un peu un think tank et qui permet à la fois de voir quel était l'état de la situation et quelles sont les perspectives et les stratégies qui pourraient en découler. Alors, de manière globale, tout d'abord, la mobilité, il y a deux choses. Il y a la demande de mobilité, pourquoi se déplace-t-on, et il y a l'offre de mobilité et comment agir sur la demande de mobilité. Mais la demande de mobilité, c'est le nombre de trajets. Le fait-on en voiture, en train, en bus, en vélo ? Comment peut-on réduire la demande de mobilité, même s'il y a une croissance du nombre de postes de travail ? La demande de mobilité, par exemple, de véhicules ou autre chose. Première chose, c'est le covoiturage. Quelqu'un a souligné le nombre, mais c'est la même chose vers Bruxelles. L'autosolisme considère que pour aller au travail, en voiture, il y a en moyenne 1,2 personnes dans chaque voiture. Voilà. Et c'est caractéristique de la bande de covoiturage parce que, à la demande du ministre Di Antonio, sur base des exemples à Madrid, en Espagne, en Angleterre, mais aussi aux États-Unis où c'est un succès, on a mis en place une bande de covoiturage. On a d'abord modifié le code de la route, ça c'est moi. Et lui, parce que la mobilité en Belgique, c'est quand même quelque chose de complexe, mais enfin, on fait aussi des choses ensemble. On a modifié le code de la route pour permettre la réalisation d'une bande de covoiturage entre Arlon et Luxembourg. Pour que ça marche, il faut bien entendu qu'il y ait une bande côté belge et côté luxembourgeois. Et suite à des contacts que j'avais noués avec le ministre François Bosch, avec lequel j'ai une excellente collaboration, il a marqué son accord pour prolonger cette bande de covoiturage au Luxembourg. Mais vous avez vu dans la presse que c'est un côté belge. Aujourd'hui, il y a 1 à 2 véhicules par jour. Pourquoi ? Les études de comportement démontrent que la voiture, c'est l'extension du privé, de l'habitation. Il y a des gens qui vont vers Bruxelles tous les jours, il y en a beaucoup, des centaines de milliers. Il y a 40% des gens qui se rendent à Bruxelles aujourd'hui en voiture, qui auraient intérêt à prendre le train, qui gagneraient une demi-heure par jour de leur domicile au lieu de travail. Je ne parle pas de gare à gare. De leur domicile en prenant soit le vélo, soit le bus, soit se garer avec la voiture à la gare, partir et rentrer dans Bruxelles. Et la question de savoir mais pourquoi ne le font-ils pas ? Pourquoi passent-ils 2 à 3 heures dans leur voiture quand en train peuvent le faire en 3 quarts d'heure ou en 1 heure ? Tout simplement, c'est sociologique. Les gens, quand ils sortent de leur bureau et qu'ils rentrent dans la voiture, ils ont déjà l'impression d'être quelque part chez elles. Personne n'a l'impression d'être chez elles. Et pas encore dans les transports en commun où il y a un voisin qui écoute le téléphone. Enfin, bref, on a ainsi un peu. Voilà. Ça, c'est. Donc, c'est le covoiturage. Je vous ai parlé du covoiturage. La deuxième chose. Mais il faut le soutenir. Il faut impérativement. Et je ne crois pas que c'est sur base des observations à 2 mois, 6 mois qu'on va avoir des résultats spectaculaires. Je pense qu'il faut que les représentants des conseillers de mobilité des entreprises, plus les jeunes générations sont plus sensibles à ça, s'organisent pour pouvoir le faire, d'autant plus que fiscalement, en Belgique, celui qui covoiture peut déduire de la même façon ses frais comme s'il conduisait seul dans la voiture. Donc fiscalement, c'est quand même très intéressant, mais comme il travaille au Grand-Duché de Luxembourg, ce n'est pas le même régime fiscal. D'ailleurs, là-bas, je pense que la feuille fiscale, la déclaration d'impôt, c'est une feuille à 4 recto verso. En Belgique, c'est un quart d'une boîte de photocopie. Enfin, c'est caricatural. La deuxième chose, c'est le télétravail. Donc, chez nous, en Belgique, le télétravail augmente de 10 à 12%. Le volume de télétravail augmente de 10 à 12% par année. Et surtout dans les grandes villes, mais c'est important dans les zones rurales qui sont souvent moins desservies par les transports publics. Et donc, il y a une plus grande. Vraiment, il faut soutenir cette forme de travail. Et il y a une limitation aujourd'hui en 24 jours par année, je crois, et la négociation porte sur 48 jours, ou 46 ou 49, m'excuse de la précision un jour ou l'autre, mais je sais que ça discute ferme entre les gens du ministère des Finances. Ce n'est pas toujours facile de comprendre les subtilités d'un jour ou deux. Mais je pense que c'est très, très important aussi, surtout que le Grand-Duché de Luxembourg offre des prestations de services en grand nombre. Je ne connais pas, évidemment, la répartition des travailleurs entre les entreprises de services et les entreprises qui ne facilitent pas le télétravail. Mais voilà, je pense qu'il faut aller là. Donc ça, c'est la demande de transport. On peut agir sur la demande de transport. La demande de transport aussi générée par le travail, on entend les chiffres et on entend le développement, donc il faut qu'on se mette autour de la table pour bien entendu trouver des solutions. Alors le transport, comment peut-il se faire? Il peut se faire à la fois par voiture individuelle, on connaît l'attachement à la voiture, mais je pense aussi qu'il faut soutenir le transport en commun et des solutions doivent être mises en place. Et c'est de nouveau, je vais évoquer des matières régionales et fédérales, mais je pense que ce qui compte surtout, c'est l'état de la réflexion. Nous avons, bien entendu, des frontières, des États qui ne simplifient pas les choses, parce que les entreprises publiques de transport ont une limite, c'est celle des frontières administratives de leurs États, qui ne facilitent pas les choses. Parce que souvent, dans les États, en transport par bus, on considère que la frontière, c'est la limite au-delà de laquelle on ne va pas. Donc je sais qu'il y a eu des contacts tels que le Grand-Duché de Luxembourg, c'est pas simple pour faire des bus transfrontaliers, qui paye quoi, comment est-ce que ça... Voilà, je pense qu'il faut véritablement trouver des solutions là où il n'y a pas d'autres possibilités de transport en commun, je pense notamment au train. Alors, en ce qui concerne le ferroviaire, il y a deux aspects. Il y a le transport de marchandises et le transport de personnes. Pourquoi est-ce que je parle des transports de marchandises? Parce qu'il est vital de poursuivre le soutien au transport de marchandises par le rail. Donc, vous avez la ligne attumeuse qui passe ici. Vous avez la plateforme multimodale d'Atus où on fait d'importants travaux maintenant. Pas tellement important en termes de longueur ni d'investissement, 7-8 millions d'euros, mais important parce que ça crée des connexions vers la France qui n'existaient pas à partir de la plateforme multimodale. Et donc, on va pouvoir amener des marchandises du port d'Anvers, de Rotterdam, de Dunkerque jusque-là et les splitter, ou l'inverse, les concentrer sur la plateforme. Et donc, c'est important, ça représente des centaines de milliers de camions par année. Et il y a un développement... un taux de croissance qui est important, qui est attendu. En ce qui concerne les voyageurs, donc, il y a trois lignes. Il y a la ligne 42, il y a la ligne 162. Le 42, c'est Liège-Luxembourg. La ligne 162, c'est Bruxelles-Luxembourg. Et il y a la ligne, c'est 165 ou 167, je ne sais pas bien. Enfin bref, Virton, Atus, etc., vers Luxembourg. Alors, aussi, on a des problèmes frontaliers, bien entendu. Alors qu'on crée l'Europe libre circulation des biens et des personnes, on a réglé toute une série de questions relatives à la signalisation classique. Et puis, on prend les normes TCS, mais il faut quand même savoir que le TCS, quand vous achetez le TCS, c'est comme si vous achetiez un ordinateur, un pays achèterait le Mac et l'autre achetait un PC. Ils ne se comprennent pas, ces systèmes. C'est une norme qui a tout sauf d'européen, alors que c'est une obligation européenne. On appelle ETC, c'est européenne, le premier titre. Et donc, la Belgique a fait le choix de mettre un système ETC sur tout son réseau pour 2022, le seul pays européen, avec le Grand-Duché qui couvrira l'ensemble. Et le Grand-Duché a pris aussi l'option de faire ça, mais les constructeurs vous livrent la dernière version qui n'est pas compatible avec l'avant-dernière. Hein, pour qu'on comprenne quand même que les États, les compagnies de chemin de fer sont confrontés à une situation quasi monopolistique, mais où les opérateurs fournissent des logiciels et de hardware qui n'est pas compatible. Par exemple, M. Jacquemin, on a été beaucoup en rapport avec vous à un moment donné entre Virton et Luxembourg, où les machines luxembourgeoises ont été homologuées en Belgique. Ça prend longtemps, beaucoup de temps. Les machines pouvaient rentrer en Belgique sur le TCS belge avec le TCS luxembourgeois, mais quand ça faisait le chemin inverse, ça ne fonctionnait plus, parce qu'en Belgique, y a trois balises en Grand-Duché et cinq, et donc quand la machine passait de Belgique au Grand-Duché, elle se rompait face à cinq balises et la machine ne comprenait plus. Donc, pour faire comprendre quand même que techniquement, il y a des choses qui sont difficiles, et pour résoudre le problème avec les machines belges, pour résoudre le problème de six machines belges entre Arlon et Luxembourg, ça coûtait 8 millions d'euros pour régler le problème de six machines. Enfin, bref, tout ça pour vous dire la complexité. Alors, la ligne, je suppose que c'est surtout cette ligne-là dont vous voulez m'entendre parler, mais je vais vous parler de l'autre aussi, parce qu'il y a des problèmes communs. La ligne Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg était inscrite dans les réseaux transeuropéens au même titre que Bruxelles-Paris et Bruxelles-Amsterdam. C'est l'axe 3, parce que c'était l'axe 3 européen. Pour des raisons que j'ignore aujourd'hui, et peut-être que Charles-Ferdinand Dauton a eu l'occasion d'en discuter avec lui à l'époque, Karel van Miert était totalement opposé à ce qu'on fasse un TGV entre Bruxelles-Luxembourg et Strasbourg. Je le regrette, c'est dommage, on en aurait tous profité, et moi en particulier, mais je ne parle pas que de ma cause. Quoique j'aurais vu passer les trains, ça ne serait pas arrêté à Rochefort. Et donc ça n'a pas été fait. J'ignore les raisons, et j'ai essayé de les savoir, et même, bon, il est décédé, mais j'ai essayé de savoir chez son chef de cabinet pourquoi il ne voulait pas. Je ne l'ai pas compris. Est-ce que c'était une question qu'il fallait mettre les moyens sur ailleurs et pas là? La situation est quoi? C'est que devant l'état de cette ligne qui date de 1958, elle avait été électrifiée pour l'expo de 58, quasiment plus de travaux depuis. Elle vivait sur sa réserve capacitive. Hein. Quand on fait une route, une autoroute, on l'a fait pour 20-30 ans. Ben, la voie de chemin de fer, on l'a fait pour 50 ans. Et donc, ça a été laissé un peu en déshérence. Et puis, à un moment donné, le gouvernement, les ministres ont décidé de le faire. Et donc, voilà, des travaux importants ont été faits jusqu'à Namur. Et puis, moi, je suis arrivé aux responsabilités. Le projet est connu d'Infrabel, et on va vous en parler un peu. Enfin, on va vous exposer un peu l'état de la situation. Et puis, j'ai refinancé la SNCB, et particulièrement cet axe-là, à hauteur de 300 millions. Et il faut encore 200 millions dans le prochain plan d'investissement pour terminer. Mais on connaît les étapes, toutes les études sont faites, les permis obtenus et tout. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire du Bruxelles-Luxembourg en 2 heures, 3 minutes ou 4 minutes en 2026-2027. Vous allez me dire, c'est loin. Oui, c'est loin. Pourquoi est-ce que c'est si loin? Tout simplement parce qu'on doit faire les travaux en maintenant un minimum de trafic sur la ligne. Si, et quand j'ai vu le Grand-Duché de Luxembourg faire ça, les CFL faire ça, couper 3 mois pour faire les 16 ou 17 kilomètres, ben moi, si je pouvais faire ça côté belge, je peux vous assurer que ce ne serait pas 2027, ce serait fin 2024. Mais est-ce que raisonnablement, on peut fermer la ligne un an et demi, 2 ans, dans une province qui est quand même à la fois dépendante de l'autoroute, mais du train? Je pense que non, on ne peut pas faire ça. Alors, il y a du travail de nuit, il y a du travail de week-end, et on est même au bout du modèle, parce qu'il y a des entreprises ou du personnel interne qui ne veut plus travailler toutes les nuits et tous les week-ends pour faire leur horaire total. Donc, vous voyez un peu la complexité, mais quoi qu'il en soit, on avance. La ligne est à voie unique actuellement entre Lavaux et Abbey. On bouge 600-700 000 m3. Le but, c'est quoi? C'est le temps de parcours, c'est l'objectif. C'est mettre les trains les rails à vitesse de référence 160 km à l'heure à la place de 130 aujourd'hui. C'est dit mettre le 25 000 volts jusqu'à Namur. Pourquoi? Parce que ça fait chaque fois gagner en gare dans l'accélération, la décélération, une minute et demie dans les opérations. Mais vous multipliez par le nombre de gares, vous trouvez tout de suite des minutes, on modernise les gares, enfin, les rails. Voilà quel est l'objectif. Entre-temps, ben, il faut que le navetteur supporte la situation. Alors, à ça est venue s'ajouter la problématique de le... Les nouvelles machines M7 vont être fournies à partir de janvier. Mais elles arriveront sur la ligne 162 à Arlon. Elles arriveront peut-être à Namur plus tôt, mais à Arlon, elles n'arriveront qu'en 2022. Pourquoi ? Parce que les machines, quand elles sont homologuées en Belgique, il faut attendre, je pense, un délai de 12 ou de 18 mois de fonctionner dans un état propre avant de pouvoir déposer le dossier d'homologation dans un état voisin. Hein ? C'est les règles internationales, ça. Pourquoi ? Ben, de dire que les machines font les maladies sur votre territoire avant de venir sur les territoires voisins. Et donc, les trains viendront bien ici. C'est quand même des machines importantes, modernes, bien équipées. Et donc, on a 1025 000 ventes. C'est des trains à grande capacité. Le nombre de voyageurs sur la ligne 162 a stagné, voire a baissé au cours des 3-4 dernières années à cause des inconvénients. Mais on sait que pour chaque minute gagnée, c'est l'expérience des autres lignes, c'est des centaines de voyageurs que l'on gagne. Et donc, si on se projette dans l'avenir, on peut supposer que dès que la qualité de service va être là, etc., on peut voir augmenter le nombre de voyageurs 4-5 ans après la mise en service, que les gens se parlent et voient que c'est efficace, de l'ordre de 25 à 30% minimum par rapport à la situation actuelle. Alors, quels sont, sur le plan transfrontalier, les défis ? Les défis, c'est l'homologation du matériel. Je pense que Muriel va peut-être en parler un peu, mais enfin, on a coopéré. Le Grand-Duché de Luxembourg a connu l'accident de Bettembourg et a décidé dans son Parlement d'avancer d'un an le délai de mise en œuvre de l'obligation de l'ETCS sur son territoire. Et comme les procédures de part et d'autre des États durent, en Belgique, on n'était pas prêt pour la date, c'est le 1er janvier, mais c'est une question de 2-3 mois avec les locomotives, je crois que c'est mars-avril, et donc après les D0 vont suivre les machines bicourant, enfin, etc. On a commencé aussi des travaux importants, nouvel atelier à Arlon, la gare est en travaux à Arlon, Libramont est terminé, Marbehan, je pense que c'est en cours, Gemelle est terminé, Marlois va commencer. Voilà, donc c'est une ligne sur laquelle on met de l'argent. On a mis, je crois, au total de Bruxelles à Arlon, c'est peut-être de 800-900 millions d'euros, mais au sud de Namur, c'est 530 millions d'euros. En ce qui concerne maintenant le voyageur lui-même payé, nous avons une structure tarifaire différente entre la Belgique et le Luxembourg. Je ne parle pas de la gratuité future du Luxembourg, je parle de la situation aujourd'hui. Il y avait une bizarrerie, mais c'est comme ça. Toutes les frontières, il y a un effet tarif frontière. Donc il y avait en gros un supplément de 13,50 euros par mois. Et on paye le parking. Donc on s'est rencontré avec François Bosch, on a convenu. Le Grand-Duché de Luxembourg prend à sa charge les 13,50 euros sur les abonnements et la Belgique rend les parkings gratuits le long de la ligne, ce qui, par exemple, à Arlon a posé quelques problèmes parce qu'il y a des gens qui habitent dans les nouvelles constructions à côté de la gare, qui sont des abonnés et qui garent systématiquement leur voiture 24 heures sur 24 parce que comme c'est des parkings gardés, ils ont l'avantage de la proximité et leur voiture est là alors qu'ils habitent à côté, que le bon sens voudrait qu'ils viennent à pied à la gare et ne pas occuper les places des gens qui habitent à 5 km. Non, mais allez, c'est le genre de situation que l'on connaît. Alors, quelles sont les demandes que l'on pourrait formuler avec le Grand-Duché ? Donc, le Grand-Duché va rendre le voyage gratuit pour les travailleurs, pour les abonnés. Donc, ça va sans doute attirer plus de clientèle. En ce qui nous concerne, nous avons deux, trois soucis. Le premier souci, c'est celui des quais sur lesquels les trains belges arrivent en gare de Luxembourg qui vont poser problème. Et je n'ai cessé de le dire. On me dit, oui, les plans tiennent compte, mais on a l'impression que ce ne sera pas suffisant et ce ne sera pas satisfaisant, mais il y a des contacts entre les sociétés, donc moi je les laisse faire, mais sur le plan politique, j'ai déjà sensibilisé François Bosch à ce niveau-là, mon collègue. Alors, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est au niveau de la entre guillemets gratuité et des effets park and ride en Belgique, des effets que ça peut avoir. Alors j'ai entendu, j'ai déjà discuté avec le bourgmestre d'Aubange, pardon, enfin Aubange et du collège de la situation. Bien entendu, il faut être attentif, notamment sur le développement du parking et de l'accessibilité. Et tout le monde n'est pas obligé de venir à la gare en voiture. On sait que le Wallon se déplace très peu en vélo, on prend toujours le relief comme motif. Maintenant, il n'y a plus cette explication-là, cette justification, puisque les vélos électriques. La deuxième chose, on prend le climat. Je rappelle tout de même qu'au Danemark, qui à mon avis a un climat un peu plus rude que le nôtre encore, 60% des gens se rendent à la gare en vélo, hein, à des distances parfois plus élevées. Donc, il y a une question d'appropriation. En Flandre, par exemple, à Courtrai, il y a 22 000 vélos à la gare, ou à Gand, je ne sais plus, je crois que c'est à Gand, 22 000 vélos à côté de la gare, et ils n'ont pas un climat peut-être un peu plus doux, ils n'ont pas tant de neige, enfin voilà. Donc, je pense qu'il y a encore des efforts à faire pour pouvoir assurer la convergence des intérêts et assurer le trajet du domicile jusqu'à la gare, d'autant plus qu'à Luxembourg, l'offre multimodale qui est là, les trams, etc., est intéressante. Et donc, il faut peut-être au niveau des techs, et ça, on en a déjà discuté avec les techs, repenser son offre en fonction de la demande de transport qui sera observée vers les gares, sachant qu'on ne doit pas nécessairement aller, comme je vous l'ai dit, en voiture à la gare, mais en vélo, quand il fait beau, et des offres de bus, etc. On a aussi mis en place un train d'étudiants, on a augmenté l'offre, on a doublé les trains sur la Tumeuse. Enfin, bref, il y a toute une série de choses. Il y a la boucle du Luxembourg, mais qui n'est pas encore bouclée, puisqu'il y a des travaux importants sur la ligne 162 qui empêchent les trains de passer. Et enfin, peut-être pour couper les pattes à un canard qui circule, qui vit encore, nous avons, et j'ai déposé une proposition de loi suite à des discussions avec le gouvernement Wallon à l'époque, le ministre D'Antonio, j'ai inséré un article 3 dans la loi qui est passée en février 2019 en affaires courantes, votée à l'unanimité, moins des extrêmes, mais pour moi, ne compte pas, l'impossibilité légale de fermer la moindre ligne de chemin de fer en Belgique d'ici 2031. Donc c'est clairement mis dans la loi et c'est repris dans les accords de coopération. Ça veut dire quoi un accord de coopération ? Ça veut dire qu'il y a un engagement mutuel, légal, qui empêche toute fermeture. Et quand M. Lallemand dit, moi, etc., ben, voilà, il est un des patrons, il appliquera la loi. Et je lui ai renvoyé une copie pour être sûr qu'il est bien lu. Il ne peut pas. Maintenant, le but de son appel, c'est de dire, donnez-moi les moyens d'entretenir toutes les lignes. Et ça, je me suis exprimé ce matin, ça ne veut pas dire que l'État doit emprunter 35 milliards. Hein, mais il faut quand même savoir que la dotation annuelle récurrente, c'est 2,8 milliards. 11 ans, ça fait 30 milliards. Et les 5 milliards de supplément d'investissement qu'il faut consentir pour le maintien de capacité, les extensions de capacité, les quais à 76 cm entre les deux tiers des gares PMR, etc., c'est dans les 5 milliards, mais ce n'est pas 5 milliards d'emprunt de l'État ou des SNCB d'Infrabel, parce que par les mécanismes que nous avons mis en place internes à la SNCB d'une part et par la croissance naturelle augmentée accélérée du nombre de voyageurs qui était de 1% qui est passé à 3,5% depuis 3 ans, 3,5% de voyageurs en plus, c'est 3,5% de chiffre d'affaires en plus à personnel constant, c'est-à-dire une croissance du résultat d'exploitation de l'ordre de 80 millions d'euros par an pour SNCB et 60 pour Infrabel, ça vous fait 140 millions d'euros. Mais 140 millions d'euros, ça vous permet de rembourser un prêt de 1,4 milliard. Et si vous, ils ont capitalisé ces sommes-là, donc je peux déjà vous dire, sur les 5 milliards qui sont nécessaires, à mes yeux, pour les 11 prochaines années, il y a déjà de l'ordre de 2 milliards, 7, 2 milliards, 8 d'autofinancement. Il restera 2 milliards 2 sur 11 ans, même si notre État a des difficultés budgétaires comme de nombreux États. Je suppose que pour maintenir un taux de croissance de 3% par an du nombre de voyageurs, on trouvera bien ces 2 milliards 200 millions d'euros. Voilà un peu quel était mon constat. Quelles sont les perspectives qui sont coulées dans des plans pluriannuels d'investissement, donc les hommes passent, mais les projets, avant ce compris les programmes. Moi, je suis en affaires courantes, mais voilà, quand on s'occupe de la mobilité, c'est normal qu'elle soit courante, mais j'essaye de les rendre roulantes. Voilà. Alors maintenant, je vais passer la parole à Sophie qui va, je suppose, expliquer un peu l'échéancier des travaux. Ensuite, Muriel sur l'offre ferroviaire et l'incidence d'ici 2026-2027.